ont des tendances. Je n'en fais pas un ordre. Vous voyez, il ne veut pas se mêler de la vie conjugale, de la vie intime, des couples, surtout s'ils sont chrétiens, il sait qu'ils dépendent directement de Dieu. Mais je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Ben, c'est un désir qu'il peut avoir. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Lui, l'apôtre Paul, il avait reçu ce don et il en était reconnaissant parce qu'il avait une telle tâche qu'il n'aurait pas pu beaucoup s'occuper de sa femme. Alors, il était toujours en voyage, il était toujours en péril. Il faut des femmes tout à fait spéciales pour des hommes qui voyagent beaucoup et qui sont loin, souvent, et qui acceptent ces séparations dans la fidélité. Alors, chacun a un don particulier d'une manière ou d'une autre. Mais voyez que c'est un don particulier que Paul souligne. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est un conseil qui donne. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le mariage, enfin, c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose de merveilleux, mais il y a aussi des tribulations. Hein. C'est pas drôle d'être marié. On est bien ma femme. Faut au moins être vrai. Mais il y a des bénédictions aussi. Alors, s'il manque de maîtrise, vous comprenez ce que ça veut dire. De même qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que... Attention, hein. Il y avait quelqu'un qui disait cela dans une église, puis il s'est trompé. Il disait que de se brûler. Et puis il a tout le temps dit que de se brûler, que de se brûler. Il n'avait pas compris que de brûler. Vous savez, il y en a des drôles qu'on entend. Dans des réunions même. Quand on peut, la langue peut fourcher. Je vais vous lire dans les épaules de Saint-Pitre. Dans les épîtres de Saint-Paul, mais il n'a pas réalisé. Ou la parabole des brebis et des boucs. Des brebis et des boucs. Mais quand on est fatigué, peut-être que ça va comme ça. Il faut bien que je vous fasse un peu rire hein, avant tout, mais ça vous fera digérer. Bon. Alors, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment un commandement du Seigneur. Parce que, j'ai dit, procréation, chapitre 1 de la Genèse. Deuxièmement, expression de communion totale. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pas nécessairement qu'il y aura un enfant. C'est le don de soi des deux personnes. Et puis, alors, la détente physique que vous trouvez ici dans ce chapitre-là. La relation sexuelle peut être aussi une détente physique. Et il faut l'admettre. Et c'est les trois choses que nous avons dans l'Écriture, et c'est très clair. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle s'est séparée, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc vous voyez, il peut y avoir des difficultés, mais il peut aussi y avoir réconciliation, et c'est le conseil que Paul donne dans le Seigneur. Ce que le Seigneur voudrait, c'est qu'il y ait l'unité, et que le mari ne répudie point sa femme. Je suis marié, je n'ai pas à répudier ma femme. Aux autres, alors ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Mais souvenez-vous, quand il dit c'est moi qui le dis, ça a quand même de la valeur, parce qu'il dit, moi aussi j'ai la pensée du Christ. C'est pour ça que je dis que c'est bien de lire toute l'épître, parce que comme ça vous avez encore en mémoire certains textes. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est pas, bon, moi je suis croyant maintenant, mais ma femme est non croyante encore. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire, ben, puisqu'elle n'est pas croyante, moi j'aimerais mieux être avec une croyante. Alors, je la répudie. Non. Je suis dans cette situation, je l'accepte et je prie. Car que sais-tu si tu n'amèneras pas ton mari? Elle est en contact avec un croyant. Si une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, ce qui arrive souvent, hein, et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. C'est pas quelqu'un qui a quitté son mari ou qui a quitté sa femme. Mais c'est là, il faut peut-être supporter des conséquences. Mais, alors vous avez d'autres versets, c'est une question qu'on a à traiter avec le Seigneur. Et vous savez, là je pourrais vous raconter des histoires que j'ai encore entendues, des histoires vraies, qui sont merveilleuses, que une fois qu'un homme est changé, peut-être que la femme, d'abord, elle n'a pas accepté, elle n'a pas compris. Mais si l'homme a été sage dans le Seigneur, s'il n'a pas assommé sa femme à coups de versets bibliques comme ça se fait trop souvent, s'il n'a pas voulu faire des pressions qui étaient des pressions charnelles, mais qu'il a su en parler au Seigneur, parler davantage de sa femme au Seigneur plutôt que de lui parler du Seigneur, parce que ça l'irritait, eh bien, il y a des choses qui sont transformées. Et si sa vie est transformée, puis que la femme voit que son mari est transformé par sa conversion, eh bien, petit à petit, tout à coup, même si on lui disait de quitter son mari, elle dirait, oh ben non, je l'aime mieux comme il est, maintenant, que comme il était avant. Alors c'est un commencement, n'est-ce pas? C'est un commencement. Parce que si elle voit un changement, eh bien, ça l'amène, ça la rapproche. Mais ça se fait graduellement, respecter le cheminement de Dieu dans une âme. Puis un attachement qui se fait de plus en plus. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Vous voyez, il y a une grâce spéciale qui est là. Le salut est entré dans ta maison. Il est dans votre cœur, il est aussi dans votre maison. Mais pour que tous soient sauvés, vous voulez que toute votre famille soit sauvée, allez-y avec prudence. Et ne pensez pas, parce que vous avez trouvé, que vous allez les illuminer, les éclairer, vous les éblouissez. Puis alors, ils ne voient plus clair. Mettez un peu de lumière sur leur sentier, puis c'est tout. Sans ça, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Pensez que vos enfants sont saints et que le Seigneur veut les bénir. Il veut le salut des enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés, mais Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari, et que sais-tu, mari, si tu ne sauveras pas ta femme? Alors, là, il y a la liberté. Mais je pense que l'heure est venue, hein, c'est 5h20 ? Ah, c'est 5h30. Je croyais qu'ils avaient mis 20 là-dessus. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Vous voyez, c'est chacun individuellement. Et vous reverrez chaque fois, il est parlé de cela, il faut marcher d'après l'appel qu'on a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis, ça c'est pour le juif. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. On n'obligeait pas quelqu'un à être circoncis dans l'église. C'était les juifs. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu, ben, c'est ça qui est. Je n'ai pas besoin d'allonger là. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Vous voyez, il y a toujours ce verset qui revient. As-tu été appelé étant esclave? Là, il sort un peu du sujet. Ne t'en inquiète pas, Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et c'est ça qui compte. Hein. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Parce qu'une fois que je suis au Seigneur, je deviens l'esclave de Christ. J'étais peut-être un homme libre, mais maintenant que je suis au Seigneur, je suis l'esclave de Christ. Tandis qu'avant, ben, j'étais libre, mais soi-disant libre, mais je n'étais pas affranchi par le Seigneur. Vous avez été rachetés à un grand prix, vous voyez que ça revient une seconde fois, ne devenez pas l'esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est comme un refrain qui vient sans cesse. Maintenant, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur la miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, parce que c'était déjà de ce temps-là. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous épargner. Et c'est vrai, en temps de guerre, il y en a eu des tribulations avec ceux qui se sont mariés juste avant la guerre. Ils ne sont pas retrouvés peut-être. C'est des choses tout à fait logiques et qui sont vraies pour tous les temps, pour les temps difficiles. Mais ce n'est pas parce que le temps est difficile qu'on dira bon, on ne se marie plus. Ou ce n'est pas parce que c'est difficile pour des enfants, on ne veut plus d'enfants. Non, si tu te maries, tu dois accepter les conséquences du mariage. Mais tu peux quand même suivre les enseignements de l'apôtre. Il t'avertit, il ne te donne pas des règles. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, et désormais, ceux qui ont une femme soient comme non, n'ayant pas, ça ne veut pas dire n'ayant pas d'égard pour elle, hein, mais que dans leur cœur, leur femme ne devienne pas l'idole hein, pour laquelle on sacrifie tout, ou le mari pour lequel on sacrifie tout, mais que chacun garde dans sa conscience qu'il appartient d'abord au Seigneur. Alors on peut être marié comme ne l'étant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Voilà, vous achetez quelque chose, ce n'est pas interdit. Mais est-ce que vous allez y mettre votre cœur? Vous pouvez acheter une bagnole, une auto, hein? Mais est-ce que vous allez y mettre votre cœur? Le Seigneur risquerait de vous la reprendre. Si ça devient un obstacle, vous êtes bien obligé d'avoir quelque chose pour circuler. Mais n'y mettez pas votre cœur. Soyez reconnaissant des moyens que Dieu vous donne. On use du monde, on est dans le monde, on est bien obligé du monde, d'user du monde. Mais ce n'est pas le monde qui est dans notre cœur. On prend juste ce qui en faut. On prend ce qu'il en faut. Mais on a un esprit détaché parce qu'on est déjà attaché à notre patrie céleste. Nous sommes des voyageurs et des étrangers, nous ne nous installons pas. Or, trop de chrétiens s'installent. Et puis alors, après, ils ont de la peine d'être déracinés. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Vous voyez, les pensées de l'apôtre, c'est nous enlever des inquiétudes. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Encore faudrait-il le savoir, hein? Parce qu'il y a des célibataires qui ne sont pas très, très occupés des choses du Seigneur. Mais Paul parle d'une façon idéale, hein, que quand on n'est pas marié, peut-être qu'on a plus de temps pour le Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il ne dit pas que c'est mal, mais il dit que c'est une question de choix. Et alors, si je veux donner tout mon temps pour le Seigneur, ben peut-être que ça vaudrait mieux que je ne sois pas marié. Moi, je ne voulais pas me marier dans mes circonstances personnelles. Et puis, le Seigneur m'a montré que je devais le faire. Pourquoi? Parce que je pouvais être plus libre en servant et servir le Seigneur en étant marié qu'en ne l'étant pas. Ça, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Il y a même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est pas mal. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un, alors c'est là qu'il y a un passage un peu difficile, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que dans ce temps-là, qu'est-ce qui donnait la fille à marier? C'était le père, n'est-ce pas? Elle était sous la domination du père. Il ne pêche point qu'on se marie, mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Alors il faudrait que la fille soit drôlement soumise au père. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. La femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, mais seulement dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, il y a une autre version que je veux vous lire pour que vous puissiez voir ce qui en est. C'est la fin de ce chapitre au sujet du Père, parce qu'on peut traduire aussi littéralement la Vierge. L'interprétation traditionnelle des versets 36 et 38, dans la plupart des églises, voit dans ces versets le cas de conscience d'un Père, c'est dans la traduction œcuménique ça, qui se demande s'il va ou non marier sa fille. Parce que quand même, les pères devraient y penser à marier leur fille, hein. Et s'ils avaient davantage prié pour leur fille, il y aurait aussi davantage ménage heureux. Un père chrétien. La traduction est alors la suivante. Si cependant quelqu'un estime manquer aux convenances envers sa jeune fille. Alors ça, c'est les traductions habituelles. Mais je vais vous lire l'autre traduction. Si quelqu'un débordant d'ardeur pense qu'il ne pourra pas respecter sa fiancée et que les choses doivent suivre leur cours, qu'il fasse selon son idée. Il ne pêche pas. Qu'il se marie. Mais vous comprenez, ce n'est pas des fiançailles éternelles. Ce qui est recommandé là. C'est pour ça que moi je suis contre les longues fiançailles. Parce que ça crée un tas de problèmes. Mais celui qui a pris dans son cœur une ferme résolution hors de toute contrainte, et qui, en pleine possession de sa volonté, a pris en son fort intérieur la décision de respecter sa fiancée, celui-là fera bien. N'est-ce pas? Mais, et c'est pas l'amour libre, il y a le respect de la fiancée, les fiançailles, c'est quelque chose de sacré, et c'est une préparation au vue du mariage. Et la continence, durant les fiançailles, est une preuve qu'on donne à sa fiancée, de la fidélité qu'on aura dans la vie conjugale. Comprenez-vous? Parce que dans la vie conjugale, on n'aura pas toujours la possibilité d'avoir des relations sexuelles. Il y a la maladie, il y a tant d'autres choses, n'est-ce pas? Alors, cette discipline que l'on se donne avant le mariage, dans le temps des fiançailles, de respecter sa fiancée, c'est de Dieu. Vous pouvez en être sûr. Mais si on voit que vraiment ça ne pourra pas tenir, eh bien, il vaut mieux se marié. Ainsi, celui qui épouse sa fiancée fait bien, celui qui ne l'épouse pas fera encore mieux, parce que c'est un temps qu'on donne à la fiancée pour voir que nous la respecterons et que nous lui sommes fidèles sans même avoir la relation sexuelle. La femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, et le mari, si le mari meurt, elle est libre de l'épouser. Voilà la divergence. Ça, c'est la Bible, la Taube. Hein. La référence, c'est chapitre 7, au lieu du Père. Hein. Au lieu du père, c'est le fiancé. N'est-ce pas? Verset 36. Hein, tu vois, depuis le verset 36 à 37, à 38. Je m'excuse de vous avoir tenu un peu longtemps, mais bon, j'espère que tous, il n'y a pas de défaut dans les autres. Hein. Eh bien, mes amis, j'espère que vous n'êtes pas à bout de souffle, mais que le Seigneur nous bénira encore dans cette fin de journée, qui est la dernière journée de ce mois d'octobre, pour entrer demain dans la Toussaint, la fête de tous les saints. Puis en France, alors, le lendemain, c'est la journée des morts. Canada aussi? Mais c'est pas férié chez vous. C'était férié autrefois. Comment? Oui. Eh bien, nous allons encore nous recommander à la grâce de Dieu, puisque nous en avons besoin à chaque instant, à chaque heure. Nous sommes en présence de ta parole et nous ne voulons pas nous lasser de la lire. Nous voudrions avoir les sentiments du psalmiste qui disait « J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Et encore, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Et encore, ta parole m'a fait vivre. Ô, que nous soyons en contact, non pas simplement avec la lettre qui tue, mais avec l'esprit qui vivifie. Pour ta seule gloire et notre bonheur à tous. En Jésus. Amen. Alors, je laisse les questions de la feuille. Nous n'allons pas revoir tout cela. Vous avez vous-même, je pense, pu mettre à la page 6, à la question 5, il y a 10, ne savez-vous pas dans cet épître? Combien trouvez-vous dans le chapitre 6? C'est pas bien malin, hein? Combien? 6, bien sûr. Hein? Bon, mais vous voyez, ça revient comme un refrain, ne savez-vous pas? Donc on devrait le savoir. Et puis voilà qu'on apprend qu'on a oublié. Mais ne savez-vous pas? C'est la maman qui dit ça à ses enfants. Et voilà, la parole de Dieu, elle nous rappelle ces choses. Elle nous souligne. Elle dit, mais vous devriez le savoir. C'est des choses qui sont saintes. Alors, pour ce qui est des viandes, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Paul reconnaît qu'il ne s'adresse quand même pas à des ignorants, même s'ils sont encore bébés en Christ, mais voilà. Tout en commençant ainsi, en reconnaissant qu'ils ont de la connaissance, et il voudrait leur montrer qu'il y a connaissance et connaissance. Il y a une connaissance dont nous avons besoin pour vivre, pour agir, mais il y a aussi une connaissance qui enfle, une connaissance qui n'est pas utile nécessairement. Alors, si nous désirons connaître, et il nous faut connaître, je désire connaître, regardez l'apôtre Paul, après des années de vie avec le Seigneur, il dit, tout ce que je cherche, c'est de le connaître, lui. Il ne dit pas, moi je suis arrivé au sommet de la connaissance. Et quand on prétend qu'on connaît la Bible, mais plus moi je la lis, plus je comprends que je ne la connais pas. Et que je dois m'en pénétrer davantage. Occupe-toi de ces choses, disait Paul à Timothée. Sois-y tout entier, tes progrès seront évidents à tous. Attache-toi à la lecture, disait-il. Et encore à Hearst, dans l'Ontario, l'autre jour où je me trouvais pour une fin de semaine, j'ai pu constater que les personnes que j'ai connues bébés en Christ, ou même incroyants, puisque l'un d'entre eux, il avait assisté à une conférence que j'avais faite, et puis il avait dit, j'avais commencé en disant qu'il y avait deux sortes de fous. Et puis alors il a dit, ben moi je sors, puis il n'y en aura plus qu'un dans la salle. Alors c'était moi qui restais. Et à cause de sa femme qui leur tenait par son pantalon, il est resté, il s'est converti. Vous le connaissez, c'est notre ami Guy. Eh bien, il le rappelait l'autre jour, ça quand même. Et puis, alors j'étais émerveillé de voir ce qu'il a fait comme progrès. Quand on lit la parole, eh bien, vous savez, il n'y a pas de miracle, mais si vous ne lisez pas la parole, si vous êtes prosterné devant votre autel de la télévision, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous faites des progrès, mais je sais dans quel sens. Vous croissez comme des carottes. Non mais c'est vrai, si on se remplit la vue et le cœur de tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que le monde vous offre? Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Et c'est un drôle de perdant. Alors, oh vous dites, mais moi je tourne le bouton. Oui, pour trouver quoi de l'autre côté? Un autre programme. Mais enfin, on perd du temps. Alors, que le Seigneur nous garde, et surtout, que ça ne devienne pas notre autel. Parce que là, il y a des drôles de viande qui sont sacrifiées. Parce qu'on dira, mais nous, on n'a pas ces viandes là, on n'a pas ce problème. Oui, mais vous en avez d'autres. Et nous pouvons tout de suite être concernés par cela. Il y a une connaissance qui angle. Ah, oh, mais moi j'ai la télévision parce que, comme ça, je peux parler de tout. Je suis au courant de tout. Pauvre. On est au courant de tout. On ne sait rien. C'est tout superficiel. Hein. On passe, c'est des choses qui passent, mais on n'est pas instruit. Et c'est un drame pour nos enfants. Ils ne savent plus l'orthographe, ils ne savent plus. Il y a une foule de choses qu'ils ne savent plus. Parce que quand on nous obligeait d'écrire et d'être appliqué, d'apprendre, eh bien, c'était tout autre chose. Alors, la connaissance, elle peut enfler. Mais qu'est-ce qui édifie? Vous l'avez compris facilement. C'est l'amour. L'amour. L'amour édifie, la charité. Mais plus littéralement, c'est l'amour. Cet amour... Et qui est le caractère de Dieu, qui est l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Et c'est cet amour qui édifie. Et verset 2, ça nous met tout de suite à notre place et dans l'humilité. Si quelqu'un croit savoir, parce qu'on croit savoir des choses, hein, puis tout à coup, on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose. Du reste, tous les vrais savants le disent et le reconnaissent, à côté de tout ce qu'ils ignorent, n'est-ce pas? Ils ne savent pas grand-chose. Ils le reconnaissent. Les plus grands savants sont les gens les plus humbles. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et c'était bien ce qui préoccupait l'apôtre Paul. Il voulait connaître le Seigneur, mais je ne te connais pas encore comme je dois te connaître. Et même pour connaître le Christ, il disait qu'il faisait la paire de toutes choses, qu'il les estimait comme des ordures, afin de gagner Christ, comme de la boue. Mais il est dit, si quelqu'un aime Dieu, oh mes amis, j'ai été blessé l'autre jour, parce que quelqu'un me disait, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? C'est baptisé, c'est un témoignage, c'est tout ce que vous voulez. Alors, ça fait mal, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment aimer Dieu qui vous a aimé le premier, c'est une réponse à son amour. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ah, dire que moi je le connais, c'est une chose, hein, mais de pouvoir dire, il me connaît, il sait qui je suis, c'est fantastique. Et il me connaît comme personne ne me connaît. Et en me connaissant comme personne ne me connaît, il m'aime. Vous ne trouvez pas que c'est beau, c'est merveilleux, c'est tonique, ça nous relève de nos dépressions nerveuses. Il me connaît, je n'ai pas besoin d'aller chez le psychiatre. Il me connaît et tout en me connaissant, il m'aime. Alors c'est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il me connaît. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Il vous connaît, mes bien-aimés, alors aimez-le. Et vous vous sentirez de plus en plus connu de lui. Alors il connaît vos besoins, il connaît votre situation, il sait que vous avez besoin de ces choses. Quelle que soit votre condition, les oiseaux n'ont pas de soucis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un Père dans les cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant leur Père céleste les nourrit. Les lys des champs dans le monde végétal, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Alors, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les idoles, c'est rien. Les idoles, ce n'est rien. Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu. Tout le reste, c'est du vent, c'est vanité. Car si les des êtres qui sont appelés des dieux, soient dans le ciel, sur la terre, donc chez les païens, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui sont et pour qui nous sommes. Est-ce que nous sommes pour lui? Et il y a un seul Seigneur, c'est qui? Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est, Jésus-Christ? Si c'est par lui qu'ils sont toutes choses, il est le Créateur. Donc, vous voyez, ce message trinitaire, le Fils est le Créateur. Il est la parole. Toutes choses furent faites par elle. Et sans elle, il n'y a rien qui a été fait. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Toutes choses ont été faites par le Seigneur, et c'est par lui que nous sommes. Si nous existons, c'est par qui? C'est par Jésus. Et alors, ça vous ramène au chapitre premier, à la fin, c'est Dieu qui a fait que le Seigneur soit pour nous notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, tout ce dont on parle dans ce monde, ces idoles, c'est du néant. Ces idoles des païens, que ce soit de la Grèce ou de Rome, ça n'a aucune valeur. Et qu'est-ce que c'était que ces dieux pour eux? Ben, c'était les astres divinisés, ils adoraient les astres, ou alors c'était des hommes, des rois, des chefs qui étaient divinisés. Mais ce n'était que des hommes qui mouraient. Voilà ceux qu'on appelle des dieux ou des seigneurs. Néanmoins, pour nous, alors ça c'est clair, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Alors, à qui doit aller notre adoration et notre reconnaissance? à Dieu lui-même, et non pas au soleil. Je bénis Dieu pour le soleil, mais je n'adore pas le soleil. Je bénis Dieu pour la lune et les étoiles, mais je n'adore pas les astres. Verset 7. Mais cette connaissance, donc, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, elle n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes, parce qu'on divinisait justement ces dieux qui n'étaient pas des dieux, on les appelait des dieux dans l'Olympe, et puis, alors on leur offrait des sacrifices. Et alors, les viandes, eh bien, qui est-ce qui en profitait ? Les prêtres, ceux qui servaient, c'est Dieu. C'était toute une affaire d'être prêtre, parce que c'était un job, hein, comme un autre. Et alors on était nourri, on avait des avantages au service de ces idoles. Alors quand on se convertissait, eh bien forcément on n'allait plus dans ces temples-là, parce qu'on avait reconnu que Dieu est esprit, et que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. On n'avait plus des sacrifices à offrir. Mais voilà, il fallait quand même se nourrir. Et comme cette viande venait des sacrifices, il y avait des problèmes qui se posaient pour eux. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Voilà la liberté que Paul avait et qu'il souligne. Mais il remarque immédiatement qu'il faut quand même prendre garde que notre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Parce que, ayant été éduqués dans le paganisme, dans l'idolâtrie, certains avaient de la peine à se dégager de l'idée que derrière cette idole, que cette idole était quand même quelque chose, et que cette viande, eh bien, pouvait leur être funeste. Alors, si c'est cela que vous pensiez, eh bien, moi, je ne mangerai pas de viande avec cette personne. Car si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, qui sait que c'est de la viande et rien d'autre, il n'y a pas un lien avec l'idole, puisque l'idole n'est rien. Mais si on me voit assis à table dans le temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? N'est-ce pas ? Ils vont suivre mon exemple. Et est-ce que ça leur fera du bien ? Si ça ne leur fait pas de bien, j'ai mieux me priver de cela. Ainsi, le faible périra par ta connaissance. Et le frère pour lequel le Christ est mort. Mais je prends un autre exemple. Est-ce que c'est mal de boire un verre de vin à table ? Non. Mais si j'ai à ma table quelqu'un que je sais avoir souffert de l'alcoolisme, n'est-ce pas ? Et que de voir ma liberté de prendre un verre de vin le pousserait, lui, à reprendre goût à l'alcool, parce qu'il voit que moi, j'en bois, je peux en boire, mais sans m'enivrer. Mais lui, c'était pas un verre qu'il buvait, c'était le tonneau. Alors, c'est ça. Je risque de lui redonner le goût, puis qu'il retourne à son tonneau. Ou alors à sa caisse de bière. Comprenez-vous ? Alors, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne veux pas être une occasion de chute, n'est-ce pas ? Puisqu'il n'est plus question pour nous de viande, mais je prends cet exemple pour que ça devienne quelque chose d'un peu actuel. Alors, je suis assez libre pour boire un verre de vin, mais aussi assez libre pour me priver d'un verre de vin pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère qui est faible. Et qui dirait, mais lui, il a cette liberté, mais pourquoi est-ce que moi je l'aurais pas ? Mais je sais que lui, il ira plus loin, et qu'il retombera dans son esclavage. Alors je m'en prive. parce que je sais que je peux pécher contre mon frère. Et qu'en blessant la conscience de mon frère, qu'est-ce que je fais? Je pêche contre qui? Contre Christ. Alors, voyez, ma motivation, si je me prive d'une chose, c'est à cause de Christ. Parce que je ne veux pas pécher contre Christ. Christ a aimé ce frère, même s'il est faible. Alors, je me mettrai à sa portée. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, un aliment, mais vous pouvez dire un breuvage aussi, je ne mangerai pas de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Est-ce que c'est assez clair? N'est-ce pas? Alors, on arrive au chapitre 9, où vous voyez l'apôtre nous dire comment il avait plusieurs droits, et puis comment il s'est privé de certains droits. Il était libre, hein? Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? Est-ce qu'il était apôtre? Oui, parce qu'il avait vu le Seigneur, mais il ne l'avait pas vu sur la terre, il l'avait vu dans la gloire. Sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a vu le Seigneur, celui auquel il ne croyait pas, celui qui pensait être encore quelque part à pourrir dans la terre, puisqu'il ne croyait pas à la résurrection. Eh bien, il dit, j'ai vu le Seigneur. Alors, il est apôtre, parce qu'on lui contestait ce titre d'apôtre. On disait, oui, mais lui, il n'a pas vécu avec le Seigneur. Mais il avait vu le Seigneur dans le ciel. Et tout son message, tout son évangile, il l'avait reçu directement du Seigneur glorifié. De sorte qu'on a deux sources de révélations dans le Nouveau Testament. Les révélations qui nous ont été données par les apôtres, qui ont été les témoins oculaires de sa vie sur la terre. Et puis, on a comme source de révélation ce que Dieu a révélé lui-même par Jésus à l'apôtre Paul, à c'est Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Et il a vu le Seigneur. Et pour lui, après avoir vu le Seigneur, c'était fini. Hein. Il a tout abandonné pour être son disciple. Et il a été tellement son disciple que à Corinthe, il y a eu des conversions. Et c'est là qu'il peut dire, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Au fond, s'il y a une église à Corinthe, est-ce que c'est à cause d'Apollos ou de Pierre? Non, c'est parce qu'il y a eu un homme qui s'appelait Paul, qui est allé leur annoncer l'évangile. Ensuite est venu Apollos, ensuite peut-être Pierre ou des envoyés de Pierre. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, parce qu'on le contestait, je le suis au moins pour vous. Vous voyez, on a contesté Jésus. Qu'est-ce qu'on disait de lui? Qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Et que même les miracles qu'il faisait, à qui les attribuait-on? À Satan. Alors, il ne faut pas que nous, serviteurs de Dieu, nous voulions être mieux traités que notre Seigneur. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Il y aura des gens, même des chrétiens, qui diront tout le mal possible de nous. Et qui diront que nous ne sommes pas des envoyés du Seigneur, que nous ne faisons pas le vrai service. On dira tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est d'avoir été appelé. Je n'ai pas été appelé par des hommes, j'ai été appelé par le Seigneur. Les hommes peuvent me rejeter, eh bien, ça c'est leur affaire, mais je continuerai de suivre le Seigneur. Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Il leur dit, mais si vous êtes convertis, c'est parce que Dieu m'a envoyé auprès de vous et que j'ai pu vous apporter la parole. Donc, vous savez quand même que ce que je vous ai apporté, ce n'était pas rien du tout, mais c'était une personne. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Vous êtes là vous-même, dit-il aux Corinthiens. N'avons-nous pas, alors, le droit de manger et de boire? Parce qu'on essayait de le critiquer sur tous les points. Qu'est-ce qu'on a dit du Seigneur? Parce qu'il mangeait et qu'il buvait. C'est un mangeur et un buveur. Parce qu'il avait du contact avec tout le monde, on disait, c'est l'ami des prostituées et des pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Si on vous dit que vous êtes l'ami du prostitué, vous êtes prostitué aussi. Voilà ce qu'on a dit de notre Seigneur, puis nous, on ne voudrait pas qu'on dise ça de nous. si ça vous plaît de nous débiner, eh bien, faites-le. Mais ce qui compte, c'est que nous soyons en règle avec le Seigneur. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? On contestait ça à l'apôtre. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Parce qu'il ne voulait pas amener quelqu'un qui ne soit pas sa femme, hein, ou vivre avec quelqu'un sans être marié. C'est pas le genre de l'apôtre, ça. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit, mais des théologiens l'ont dit, et dans une grande conférence que je faisais, eh bien, il y a un prêtre qui s'est levé, je ne savais pas que c'était un prêtre, et qui a dit, mais monsieur Racine, vous savez bien que Jésus avait comme maîtresse, quoi? Qui est-ce que vous croyez? Marie-Madeleine. Voilà ce qu'il a dit. J'étais absolument scandalisé. Hein. Mais j'ai remis en place très gentiment, très doucement. J'ai dit que j'étais un chrétien anti-choc. Alors, mais je lui ai montré pourquoi Jésus n'avait pas Marie-Madeleine comme maîtresse. S'il avait dû avoir une femme, Jésus se serait marié. Mais pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'il avait un ministère, et comme fils de Dieu, il ne pouvait pas faire cela. Il était vraiment eunuque, dans le vrai sens. Qui font cela, qui prennent une femme avec eux? Les apôtres, donc ils étaient mariés, les frères du Seigneur, Jacques et Jude, et puis Cephas, qui est l'apôtre Pierre. Est-ce que Pierre était marié, oui ou non? Qu'est-ce qu'il avait à la maison? Une belle-mère, hein, qui était malade, agitée par la fièvre. Alors, si Pierre voulait soigner sa belle-mère, la fièvre montait. Il vaut mieux parler au Seigneur de la belle-mère. C'est ce qu'il a fait pour finir. Et quand il a parlé au Seigneur de sa belle-mère, c'est le Seigneur qui est allé la toucher et la fièvre l'a quittée. Elle s'est mise à servir le Seigneur. C'est beau, cela. Si vous avez des conflit avec la belle-mère, parlez de la belle-mère au Seigneur. Mais ne lui parlez pas du Seigneur, parce qu'elle va s'exciter. Et ça, c'est vrai dans un tas de domaines. Parce qu'on veut toujours parler du Seigneur, puis vous les énervez. Ou bien vous voulez toujours venir avec la Bible. Ils n'aiment pas la Bible, alors ne leur montrez pas la Bible, lisez-la pour vous. Et c'est comme ça qu'une femme peut gagner son mari. Puis pour finir, c'est lui qui demandera où cette femme trouve ces choses qui ont changé sa vie. Et alors la Bible pourra sortir. Il ne faut pas sortir la Bible avant le temps. Non, mais c'est vrai, cela. La Bible, elle doit être dans votre cœur. Comprenez-vous? Et puis après viendra le moment où vous pourrez faire le travail. Mais nous, on veut tout faire exploser. Hein. Il faut que ça change. Puis on oublie quel temps il a fallu au Seigneur pour que nous nous changions. Et puis en quelques jours, vous voulez que les autres changent. Vraiment, nous sommes fous. Pas de la bonne folie. Que le Seigneur nous enseigne. Puis après, verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Parce qu'eux travaillaient. Hein. Mais ils auraient eu le droit de ne pas travailler. Vous voyez, on faisait des différences. Quelqu'un qui est entièrement consacré au service du Seigneur, eh bien peut-être qu'il ne peut pas travailler de ses mains ou faire d'autres choses. Mais alors, que personne ne juge, mais que cette personne ne fasse pas des appels d'argent à n'en plus finir. C'est le Seigneur qui est son patron. Et c'est de lui qu'il reçoit ce dont il a besoin. Plus jamais
est engagé dans une armée à ses propres frais. Et c'est vrai, c'est des choses que vous pouvez comprendre facilement. Hein. Vous avez la solde, même si elle est petite. Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? C'est des choses toutes simples que Paul leur dit. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes, c'est-à-dire dans la vie quotidienne? La loi ne dit-elle pas cela aussi, si vous lisez dans l'Ancien Testament? Et il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain. Vous pensez que c'est quelque chose de merveilleux, hein? Dieu a donné cette loi, que le bœuf qui foulait le grain, il ne fallait pas le museler pour qu'il puisse manger. Hein? Et alors, là, Paul dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Mais qu'est-ce que vous diriez, vous? Oui, il se met en peine des bœufs. Pourquoi? Il a dit, le juste, il prend soin de sa bête. Hein? Proverbe 12, verset 11, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, mais ça va plus loin que ça, et c'est ce que Paul veut montrer. Mais il ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin des bœufs, puisque c'est lui qui a donné cette loi, hein, qu'il ne fallait pas emmuseler le bœuf. Et il a dit qu'il n'y a pas un passereau qui tombe en terre sans la volonté de Dieu. Dieu s'occupe de toutes les créatures. Alors, Jésus disait, mais vous valez beaucoup mieux que... Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Parce que comme il a parlé des bœufs, on les emploie pourquoi les bœufs? Pour labourer. Alors, il continue, puisque nous devons labourer. C'est un travail, hein, et qui a sa valeur. Dans le champ de Dieu, nous sommes des laboureurs, puis ensuite nous semons, mais nous semons avec espérance. Celui qui foule le grain, doit fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire que nous moissonnions vos biens temporels? C'est normal. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, et il y en a qui en jouissaient, hein, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? On avait complètement oublié Paul. Il le dit, ailleurs personne ne lui envoyait rien. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Il est tellement persuadé qu'il faut que ces païens soient convaincus qu'il ne fait pas ça pour gagner sa vie. On n'est pas au service de Dieu pour gagner notre vie, mais parce qu'il nous a appelés. Or, si c'est lui qui nous a appelés, il est responsable de nous et il prendra soin de nous. Il ne nous donnera pas plus qu'il ne faut, mais il nous donnera le nécessaire. Mais évidemment, si c'est nous-mêmes qui nous mettons au service de Dieu, si c'est notre propre pensée, notre désir, eh bien, il y aura des difficultés. Moi, j'ai connu bien des enfants de pasteurs qui m'ont dit, en tout cas nous ne deviendrons pas pasteurs, parce que chez nous, on a toujours tiré le diable par la queue. C'est très beau, hein. Témoignage d'un enfant de pasteur qui dit que chez eux, on tirait le diable par la queue. Alors, on peut prêcher après ça. Je ne sais pas quel queue il a, le Satan. Hein. Parce que... Mais c'est une expression, en tout cas en France, je ne sais pas si on le dit ici. N'est-ce pas? On a des fins de mois pénibles. Bon. Eh bien, comme si l'on n'avait pas le Seigneur qui donne ce qu'il ordonne, et qui ne veut pas que nous soyons dans les dettes. Alors, il peut nous aider si nous vivons dans son chemin. Mais il faut être appelé. Et ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? C'était vrai chez les Israélites. C'était vrai aussi chez les païens. Les prêtres étaient nourris par l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre par l'Évangile, ou de l'Évangile. Où est-ce que le Seigneur a dit cela? Luc 10, oui. C'est quand il dit, il envoie des disciples et il dit qu'ils peuvent entrer dans une maison, y rester et y manger, car l'ouvrier est digne de son salaire. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Mais si Paul souligne cela, c'est pas parce qu'il veut leur demander de l'argent, mais pour leur dire, je pourrais vous en demander, mais je ne le fais pas, n'est-ce pas? Mais ce serait pas mal, même. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Vous voyez, nous, on parle toujours de nos droits. Et aujourd'hui, c'est les droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme. On parle tout le temps de nos droits. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris, car j'aimerais mieux mourir. Ça va loin. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Pour lui, c'était sa vocation. Alors, peut-être que tous ne l'ont pas. C'est normal qu'un ouvrier du Seigneur soit rétribué par son Église, je n'ai rien contre tout cela. Mais il y en a d'autres qui ont une autre conception, parce qu'ils ont été, ils ont eu un appel, et ce serait une infidélité pour eux de vivre autrement. Comprenez-vous? C'est ça. Mais ça ne juge pas. L'ouvrier est digne de son salaire. C'est tout à fait normal que vous ayez votre salaire au service du Seigneur. Ce n'est pas cela que je veux dire. Mais personnellement, quand certaines personnes m'ont dit, à un moment donné, un jour, je me souviens du chemin où j'étais, un homme millionnaire est venu vers moi, qui m'a dit, écoute, moi, je ne sais pas que faire de mon argent. Je te donne un carnet de chèques. Tu as tellement besoin, j'étais dans la ville de Laison, il y avait 3000 malades, et maintenant, quand tu as un besoin, eh bien, tu tires là-dessus. Hein, parce que ça me facilite les choses pour moi, parce que moi, je ne sais pas qui donner, etc. Voilà le carnet. Vous savez ce que je lui ai dit? Je ne vais pas être beau. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale parce que tu m'enlèves ma bénédiction. Parce que maintenant, qu'est-ce que je ferai? Quand j'ai un besoin matériel, je tire un chèque. J'ai plus de communion avec le Seigneur, je prie que. J'ai ça. J'ai un compte en banque d'un autre. Et je peux tirer les chèques que je veux. C'est une abomination, ce qu'il me disait. Mais pourtant, il était sincère. Il avait à cœur de faire profiter ses richesses. Mais j'ai dit non, jamais tu m'auras dans ce domaine-là. Quand j'ai un besoin, parce que je sais très bien, je ne peux pas évangéliser sans aider matériellement. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a faim, eh bien, je prierai pour vous. Mangez bien, bon appétit. quelqu'un qui a froid, qui est sans logement, eh bien, chauffez-vous. C'est l'histoire de Jacques. N'est-ce pas? Non. Quand on prie, le Seigneur me dit, mais c'est par toi que je vais y répondre. Mais alors, mais moi, j'ai rien, Seigneur. Eh bien, je vais dans ma chambre, je prie. Puis voilà, le Seigneur répond. Alors c'est mon contrôle, n'est-ce pas? Mais il répond, parce que vous savez, il y a toutes sortes de tentations avec l'argent. Alors il faut savoir à qui on doit donner et à qui on ne doit pas donner, parce qu'on peut rendre de mauvais services. Mais puis le Seigneur ne veut pas que les gens soient des mendiants. Il faut peut-être les aider, mais pour qu'ils puissent, après, voler de leurs propres ailes. Alors, on a affaire avec le Seigneur. Mais ça n'est pas arrivé qu'une fois dans ma vie. Il y en a eu d'autres, et je leur ai répondu de la même manière. Parce qu'on me dit, maintenant c'est moi qui vais m'occuper de toi, ô misère. Des hommes pour s'occuper de nous, ça tient combien de temps? Puis après, tout d'un coup, voilà qu'ils n'ont plus les mêmes sentiments. Il n'y a que Dieu qui ne change pas de sentiments. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Tandis que pour un oui, pour un non, les gens changent, et puis vous n'entendez plus parler d'eux. Alors, vous voyez que Paul dit, ben, j'aimerais mieux mourir que de changer cette conception qu'il avait. verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Vous voyez que c'est pas un fonctionnaire. Il est vraiment au service de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Voyez-vous, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, ce serait son malheur. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, parce que quand on fait des choses de bon cœur, on est heureux. C'est vrai ou c'est faux? Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée aussi. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, il y a des hommes qui ont des droits comme prédicateurs de l'évangile, mais qui n'en usent pas. Ça, c'est leur affaire. C'est pas l'affaire des autres. Et puis, ils ne jugent pas les autres qui ont une autre conception. Car, j'insiste, le Seigneur a dit, l'ouvrier est digne de son salaire. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre de personnes. Alors, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, il se fait à eux, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, on pourrait voir dans les actes comment il a fait ça, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Je crois que c'est assez clair, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Avec ceux qui sont sans loi, donc c'est les païens, comme sans loi, il n'impose pas d'abord ses principes, il les garde dans son cœur, mais quoique je ne sois point moi sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Vous voyez que ce qu'il a dit, que Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles, eh bien, tout cela revient ici dans ce verset et dans d'autres. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. C'est ça qui est merveilleux. Est-ce que nous sommes de ceux qui vont tout faire à cause de l'évangile? Ne savez-vous pas, voilà encore un ne savez-vous pas, j'ai dit qu'il y en a 10. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, alors maintenant il nous donne l'exemple d'un athlète, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Alors il y a une manière de remporter le prix. Courez de manière à le remporter. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'un athlète fasse pour remporter le prix? Qu'il dorme longtemps, qu'il paraisse, qu'il ne fasse aucun exercice, mais qu'il se présente le jour du concours. Bien gros. Il s'impose toutes sortes de disciplines. Il renonce à certaines choses. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas capables. C'est épouvantable. Hein? On n'a pas de but. Mais on doit avoir un but. Il y a un prix au bout de la course. Le salut, il est gratuit, mais vous oubliez qu'il y a un prix. Nous allons recevoir le salut de nos âmes comme prix de notre foi. Alors, il y a une manière de courir pour remporter le prix. Courir de manière à le remporter. Alors, évidemment, pour mieux courir, il faut que je prenne toutes mes valises. Hein? Vous me voyez avec mes valises? On veut tout garder. Si vous voulez avoir un prix, il faut abandonner. N'est-ce pas? Et puis la porte, elle est étroite. Alors on ne passe pas avec tout le bagage. Vous passez seul, soyez heureux. On s'impose, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils ont un régime, ils le font pour obtenir quoi? Une couronne, mais comment? Corruptible. Tandis que nous, qu'est-ce que nous aurons? La couronne incorruptible de gloire. On pourrait parler là des cinq couronnes dont parle l'Écriture, mais je passe. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, dit Paul. Puis, vous pouvez voir tous les autres versets où il parle de la cour. course. Hein. Je cours droit au but, oubliant les choses qui sont derrière. Et puis, il regarde à Jésus, fixant les yeux sur Jésus. Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Si vous voulez que le sillon soit droit, il faut regarder en avant. Il y a des principes que vous ne pouvez pas négliger. On ne court pas à l'aventure, mais on ne frappe pas non plus en battant l'air, mais on sait où l'on frappe. Mais je traite même durement mon corps, parce que justement on a un corps. Alors, est-ce que c'est le corps qui va me dominer, ou bien est-ce que je vais dominer mon corps? Qu'est-ce qui va dominer? C'est l'esprit qui va dominer le corps, hein? De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres, parce que c'est quelque chose de terrible. On a prêché aux autres, puis tout d'un coup, eh bien voilà, que l'on doit constater qu'on n'est pas dans la ligne du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à ces fameux télé-évangélistes. Alors, frère, je ne veux pas que vous ignoriez, alors ça c'est une parenthèse, et c'est un tableau dans ce chapitre 10, vous pourrez le relire, c'est un tableau de la chrétienté à l'heure actuelle. C'est comme une parenthèse qu'on a dans ce chapitre 10, entre le chapitre 9 et le chapitre 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, qui sont nos pères, c'est les Israélites, hein, ont tous été sous la nuée. Souvenez-vous de la nuée qui les dirigeait pour sortir d'Égypte et au travers de la mer, qu'ils ont tous passé à travers la mer. C'est vrai, hein? Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, en quelque sorte, en traversant la mer, c'était comme un baptême, ils étaient environnés d'eau. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, c'était quoi? La manne. Une fois qu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer, ils ont mangé la manne, ce pain spirituel qui leur était donné par Dieu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et quel était ce breuvage? C'était l'eau du rocher. Et c'était une eau en quelque sorte miraculeuse, hein, puisque Dieu l'a fait sortir de ce rocher. Mais ce rocher, dont il a dit qu'il les suivait, c'était le Christ. C'était le Christ. Si ils ont eu cette eau, c'était à cause du Christ. C'était le Christ qui était déjà là avec eux. Soit dans la nuée, soit dans la mer, pour cette traversée, ils étaient conduits par Jésus, qui était leur nourriture et leur breuvage, avant son incarnation. Mais malgré qu'ils ont eu tous ces privilèges, qu'est-ce qui leur est arrivé? La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ça devrait quand même nous secouer un peu. Ça ne suffit pas de dire qu'on est converti. Ça ne suffit pas de dire « J'ai mangé et bu en ta présence, j'ai pris la Sainte Seine. » Beaucoup diront « Mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» La porte aura été fermée. « N'avons-nous pas mangé et bu en ta présence? N'as-tu pas enseigné dans nos rues ?» Lisez ce qu'il est dit dans Matthieu. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Alors, est-ce que c'est de ses brebis? Non, il ne l'avait jamais été. Parce que Jésus dit, mes brebis, je les connais. Et elles me suivent. C'était des gens qui se sont illusionnés au sujet de leur salut. Ils sont venus à des retraites, ils ont entendu la parole, ils ont été au bénéfice du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est dans cette salle, et il opère. Ils ont connu des bénédictions, même certaines joies, mais ils n'ont pas laissé vraiment Jésus entrer dans leur une personne. Ils ont été influencés par le christianisme, mais ils n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur. Alors Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut, c'est des gens qui n'ont jamais été réellement sauvés. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont. On peut avoir des mauvais désirs, mais il faut s'en juger. Alors, vous voyez ce que nous ne devons pas faire. Ne devenez point idolâtres. comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, ils se levèrent pour se divertir. C'est le festival du désert au pied du Sinaï. Moïse était au sommet du Sinaï avec Josué. Dieu lui avait donné les tables de la loi. Quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a trouvé? Le veau d'or. Vous rendez-vous compte? Au bout de 40 jours, les Israélites avaient déjà oublié leur Dieu qui les avait délivrés. On ne sait pas ce que ce Moïse est devenu. Alors, fais-nous un veau. Parce que on est des gens très religieux. Alors, Aaron, qui est le serviteur de Dieu, qui est le frère de Moïse, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû refuser. Non, il veut faire plaisir au peuple. Le peuple demande cela. Alors il dit, eh bien, amenez-moi votre or, votre argent, enlevez vos pendants d'oreilles, puis il leur fait un veau. Puis après, il dit, demain, c'est ça qui est abominable. Qu'est-ce qu'il dit? Demain, une fête à l'Éternel. Vous rendez-vous compte? Mais c'est ça maintenant. Demain, une fête à l'Éternel. Oh, c'est le Seigneur partout, c'est pour Jésus que l'on fait ça. Tout est au nom de Jésus. Demain, une fête à l'Éternel. Et on se prosterne devant le veau d'or. Un bœuf qui mange la paille. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Oui, c'est ça. Voilà notre cœur. Et alors quand Moïse dit à Aaron, mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Tu connais le peuple, n'est-ce pas? Il le portait au péché. Il n'a pas aimé. Il y a des serviteurs qui n'aiment pas les âmes. Ils font ce qu'elles désirent. Mais un père qui fait tout ce que désire son enfant, vous croyez qu'il l'aime? Non, il ne l'éduque pas. Or vous devez savoir résister à vos enfants si vous les aimez. Parce qu'un jour, ils vous diront, mais toi, tu étais mon père, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Moi, j'étais qu'un gosse, j'étais qu'un enfant. C'était à toi de m'éduquer. Et ça, vous le reprochez, ça. Puis d'autres, ça vous remercie. Heureusement, papa, que tu n'as pas voulu cela. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ça, c'est l'Ancien Testament que vous devez lire. Dans la tentation avec les Madianites, et comment alors le fils d'Aaron et les pas Éléazar, Phiné, le petit-fils d'Aaron, a eu l'honneur de l'Éternel, et quand il a vu un Israélite qui était un prince de son peuple s'en aller dans sa tente avec une Madianite, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a suivis, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a transpercés, les deux ensemble, cloués. Voilà le péché qui conduit à la mort. Mais il n'en est pas mort, il n'y a pas seulement Cosby là qui est morte, et puis celui avec qui elle a couché, mais il y en a 23 000 qui sont morts. Ne tentons point, alors voyez, ne soyons pas idolâtres, ne nous livrons pas à la débauche. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Vous vous souvenez? Pourquoi est-ce qu'il y a eu les serpents? Ils ont murmuré. Et qu'est-ce que nous sommes bien souvent? Des murmurateurs. Malgré que nous avons eu tant de délivrance, nous murmurons. Et puis alors, Dieu, dans sa grâce, accorde à Moïse cette solution, fais-toi un serpent, Moïse obéit, il fait le serpent d'airain, et ils leur disent ce qu'ils ont à faire. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent mourraient. Mais ils leur disent, ceux qui regarderont le serpent seront guéris. Alors qu'est-ce que les gens font? Si vous regardez vos serpents, et que vous essayez de vous les secouer, est-ce que ça avance quelque chose? Vous mourrez. Ne regardez pas vos serpents, n'essayez pas de vous en débarrasser vous-même, regardez à la croix. Regardez au serpent. C'est cela qu'il faut. Un regard au serpent, ils étaient guéris. Mais nous autres, on veut se débarrasser de nos péchés nous-mêmes. Hein. On essaye d'enlever nos serpents, puis pendant ce temps, on meurt. Finissez-en d'essayer de vous délivrer vous-même de vos péchés. Vous ne pouvez pas. Regardez à Jésus. Un seul regard. Souvenez-vous du brigand sur la croix. Il a regardé à Jésus et il a eu son salut. Mais si vous voulez faire votre salut en vous débarrassant vous-même de vos serpents, vous mourrez avec vos serpents. Alors ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Mais ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors toutes ces choses, verset 11, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Est-ce que ça nous sert d'exemple à nous? Elles ont été écrites pour notre instruction. Alors il faut lire l'Ancien Testament. Et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, c'est-à-dire dans la dernière période. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Quand vous me dites, mais moi ça ne peut pas m'arriver une chose comme ça, Pierre aussi l'a cru. Et c'est lui qui a renié le Seigneur. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais en même temps, alors vous avez ce merveilleux verset qui a aidé tant d'âmes. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire mesurée. Parce que si on avait des épreuves surhumaines, on ne serait plus là. Et Dieu est fidèle. Vous voyez combien de fois est-ce qu'il est dit que Dieu est fidèle dans cet épître. Dans le chapitre 1er, il est déjà dit que Dieu est fidèle. Dans un autre chapitre, il l'est dit aussi. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il a déjà l'issue. Quand vous avez Jésus, vous avez la porte. Il a dit, je suis la porte. Et une porte, c'est une issue. Avec Jésus, on a l'issue. On a la porte pour sortir. Alors, au lieu de se demander, mais comment est-ce que je vais m'en sortir, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour m'en sortir? Tu me ferais juste. Il va nous sortir. Mais il faut avoir affaire avec lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, alors fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on doit fuir? L'impudicité. Et maintenant, on doit fuir l'idolâtrie. Ne vous faites pas des idoles. Vous direz, mais moi, j'ai pas d'idole. Oui, mais on en a dans ton cœur. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Puis alors, il introduit la table du Seigneur ou la scène. La coupe de bénédiction que nous bénissons à la table du Seigneur, comme nous le ferons demain après-midi, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Quand on prend la coupe, eh bien, nous confessons que nous avons communion au sang du Christ, puisque Jésus, en instituant ses signes, il a pris le fruit de la vigne, il a rempli la coupe, et puis il dit, buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Alors, en buvant à la coupe, nous confessons que nous croyons que si nous avons la vie, nous l'avons par son sang. Ce n'est pas au moment où nous prenons la coupe que nous recevons la vie, mais nous confessons que nous avons la vie. Si je prends la coupe, c'est parce que j'ai la vie. Mais si je n'ai pas la vie, est-ce que je dois prendre la coupe? Non, je mens. Alors je communie indignement. Je n'ai pas une communion. Mais le pain que nous rompons, n'est-il pas notre communion au corps de Christ? Nous confessons que Jésus a donné son corps, sa chair a été meurtrie sur la croix, il l'a donné pour nous, et que nous avons communion à son corps, que nous faisons partie de son corps. C'est cela notre participation à la table du Seigneur, nous faisons partie de son corps. Nous sommes de lui, nous lui appartenons. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et on prend toujours cette image des grains de blé, n'est-ce pas, qui étaient dans les épis, sur les collines, et puis on a coupé les épis, on a battu le blé, et puis ces divers grains qui étaient là séparés, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a broyés, ça est devenu une pâte, et maintenant il y a un seul pain. Il y a un seul pain, mais il est fait de plusieurs grains. Mais voilà notre unité. Dans l'Église, nous sommes unis comme un seul pain, mais qui est fait de plusieurs grains. Nous participons tous à un seul et même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Parce que derrière les idoles, si l'idole n'est rien, qu'est-ce qu'il y a derrière les idoles? Un mauvais esprit. C'est Satan qui nous rend idolâtres. Alors, les idoles en elles-mêmes ne sont rien, mais derrière les idoles, il y a les démons. Hein? Nous allons voir ça plus tard encore. Alors, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer le Seigneur à jalousie? Alors, comprenez bien une chose. Qu'est-ce que c'est que la table des démons? Où la table des démons est-elle dressée? Et qu'est-ce que c'est que la table du Seigneur? C'est entre ces deux tables qu'il ne peut pas y avoir de communion. Où voyez-vous la table des démons? Dans le monde. Comprenez-le bien, ne mettez pas la table des démons dans les églises. Parce qu'il n'y aurait que votre église qui aurait la table du Seigneur, et puis toutes les autres communautés, ils auraient la table des démons. Ça, c'est absolument faux. La table du Seigneur, elle est dans le ciel. Hein. C'est une réalité céleste. À la table du Seigneur, on place tous les croyants, où qu'ils se trouvent. Quelle que soit leur dénomination, ceux que le Seigneur reconnaît pour les cieux, ils ont place à sa table. Je vous ai préparé une place. Mais la table que nous avons dans la communauté devient une expression de la table du Seigneur. Qu'elle soit en bois, qu'elle soit en marbre, qu'elle soit en fer, c'est une expression de la table du Seigneur. Où, et nous venons, non pas seulement quand nous communions, mais nous venons nourrir notre homme nouveau, de tous les mets qui sont sur la table du Seigneur. C'est le Seigneur qui nourrit maintenant l'homme nouveau. Nous avons une nourriture nouvelle pour l'homme nouveau. Mais, dans le monde, alors qu'est-ce que vous avez? Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et alors, Satan est là avec tous les démons et qui sont justement ces puissances qui nous poussent vers le mal. Alors, si le dimanche, par exemple, je viens à la table du Seigneur, je communie. Alors bon, je dis que je suis en communion avec le Seigneur, mais mes 6 jours ouvrables, je vais nourrir mes appétits terrestres dans le monde, à la table des démons. C'est là que les gens qui ne sont pas régénérés vont se nourrir, hein, parce qu'ils ont besoin de ça. Parce que s'ils n'ont pas ça, ils ne vivent pas. Hein. Il leur faut le péché pour vivre. Comprenez-vous? Tandis que le croyant, il a en horreur le péché. Alors, il ne peut pas communier à la table du monde, à la table des démons, et puis, en même temps, communier à la table du Seigneur. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Il faut faire un choix. Et alors, c'est là qu'il ne peut pas y avoir de communion à la table du Seigneur avec la table des démons. Que le Seigneur vous inspire et vous empêche de juger tous les autres milieux, mais que nous nous jugions nous-mêmes, que nous nous demandions quelle est notre vie quotidienne à la maison et dans le monde où nous sommes bien obligés d'être, mais est-ce que nous avons communion à ce qui est mauvais dans le monde, ou bien est-ce que nous nous gardons purs pour le Seigneur? Moi, je dirais que la table du Seigneur a été pour moi un des grands moyens de me garder dans ma jeunesse, de tomber dans le péché. Parce que je voulais pouvoir répondre au désir du cœur du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. Et il y a eu une puissance, il y a une puissance dans la communion à la table du Seigneur, ce qui est appelé Eucharistie, l'action de grâce, n'est-ce pas, la suprématie de ça, il y a une puissance qui nous garde du mal. Parce que je ne veux pas apporter une souillure à la table du Seigneur. Alors, on se juge du mal. Verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est vrai que nous sommes maintenant dans la liberté, mais il y a des choses que je sais qui n'édifient pas, alors je ne les ferai pas. Que personne ne cherche maintenant son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui. Mangez de tout ce qu'on vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Vous êtes dans le monde, vous pouvez manger de tout ce que l'on vend à la boucherie, comme il l'est dit. Car la terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Mais si un non-croyant vous invite, alors voyez, il revient sur le chapitre 8, et que vous ne vouliez pas manger de ce qu'on vous présentera, et que vous y allez, manger de ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a donné l'avertissement, à cause de sa conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose pour laquelle je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez comme les derniers versets de chaque chapitre sont importants. Là, vous avez vraiment la solution. Comment vivre dans ce monde? Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est clair? Et puis c'est simple. Est-ce que Dieu est glorifié si je fais ça? S'il n'est pas glorifié, c'est pas à faire. Alors, nous savons tout de suite ce qui est à la gloire de Dieu et ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, on la connaît. Faites tout pour la gloire de Dieu. Soit dans le manger, soit dans le boire. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs. Les Grecs, c'était les païens, les Juifs, c'était les gens religieux, puis maintenant, il y a un troisième groupe, l'Église de Dieu. On fait partie de l'Église de Dieu. On était peut-être Grecs, on était peut-être Juifs, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est l'Église de Dieu. Alors, ne soyons en scandale à personne. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du grand nombre, afin qu'il soit sauvé. C'est vraiment la pensée de Dieu, faire tout pour la gloire de Dieu. Et quand on connaît la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'on sait? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Eh bien, que le Seigneur soit avec nous et que nous puissions repasser ces choses dans nos cœurs. Dieu notre Père, à la fin de cette journée, nous voulons te demander de nous rappeler les vérités essentielles que nous venons de survoler et que ces choses nous deviennent familières, entrent dans notre sensibilité et que nous soyons vraiment préparés pour que demain nous soyons en communion à ta table et que nous puissions réaliser que nous sommes un seul corps avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur.